le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Lénine est mort il y a 100 ans. On s'est demandé ce que ses idées inspirent encore aujourd'hui. Mais d'abord, on vous emmène dans l'arrière-boutique de l'intelligence artificielle aux Philippines, où des petites mains tout à fait humaines s'activent pour développer cette technologie. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Dans l'ombre des géants de la tech, des centaines de milliers d'informaticiens tapotent sur leur clavier à longueur de journée et de nuit pour entraîner les algorithmes de l'intelligence artificielle. Aux Philippines, les petites mains de l'informatique construisent cette nouvelle technologie dans une grande précarité. Théophile Simon est notre correspondant aux Philippines. Il nous explique qu'aujourd'hui, sur le plan social, l'IA est tout, sauf une révolution. Bonjour Théophile.
Bonjour Sandrine.
Vous vous êtes rendu dans ce que vous décrivez être une place centrale dans la course à l'intelligence artificielle. En fait, un bâtiment comme un autre dans le sud des Philippines. À quoi ressemble cet endroit où travaillent les petites mains de l'intelligence artificielle ?
Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment un bâtiment, comme vous dites, qui ne paye pas de mine. Un bâtiment tout fin, tout en longueur, dans une rue commune d'une petite ville du sud des Philippines. On n'est même pas à Manille, on est dans une île à 1h30 d'avion de Manille. Et dans ce bâtiment, on trouve près d'un millier de jeunes informaticiens qui travaillent pour une société américaine qui s'appelle Scale AI, qui est une grosse start-up. Elle a installé des pièces qui sont fermées par des digicodes avec des rangées d'ordinateurs. Il y a des centaines d'ordinateurs qui sont protégés par des digicodes. C'est un immense bureau sur 4 étages où on trouve chaque jour, jour et nuit, je précise, jour et nuit, des milliers d'informaticiens qui travaillent.
Et que font tous ces informaticiens ? Qu'est-ce qui les occupe jour et nuit ?
Ils passent leur journée à analyser des vidéos, par exemple, pour apprendre aux voitures autonomes à conduire toutes seules, mais aussi à détourer des images pour apprendre à l'intelligence artificielle à reconnaître des objets toutes seules. Donc, par exemple, certains des informaticiens passaient leur journée à détourer sur une image des œufs dans une assiette, une barre de céréales, une tomate, un bol de riz. En répétant cette tâche des milliers de fois, l'intelligence artificielle, elle apprend ensuite à reconnaître ces objets toute seule. Ça fait 1000 fois qu'on lui apprend que ça, c'est un bol de riz. Et bien, à la fin, elle apprend à savoir toute seule que ça, c'est un bol de riz.
Vous le disiez, ces technologies, elles permettent aussi, par exemple, à une voiture de conduire toute seule.
Les voitures autonomes, par exemple, de Google, qui sont actuellement en train de sillonner San Francisco sans chauffeur, elles savent reconnaître elles-mêmes que là, il y a un feu rouge, là, il y a une voiture, là, il y a un chien, un piéton qui traverse, il faut s'arrêter, il faut accélérer, il faut tourner à droite, à gauche. Et en fait, tout ça, la voiture, elle a besoin de l'apprendre. Ça fait des années que Google alimente ces jeunes Philippins avec des milliards d'heures de vidéos tournées à San Francisco. Ces ingénieurs informaticiens, ils prennent seconde par seconde toutes les images envoyées par Google et elles expliquent à la machine, là il y a un panneau, là il y a un chien, là c'est un passage piéton. C'est comme ça que les voitures autonomes savent désormais conduire toutes seules.
Dans quelles conditions travaillent ces informaticiens ?
Ces ingénieurs travaillent dans des conditions sociales absolument déplorables. Ils ne sont même pas salariés, ils sont des sous-traitants, ce qu'on appelle des freelances, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la tâche, à la micro-tâche même, hein, puisque annoter une donnée, ça peut prendre quelques minutes comme une heure, deux heures, trois heures, ça dépend de la complexité. Et en fait, ils touchent quelques centimes à chaque fois. Ils les touchent même hors du système bancaire national. Ils sont payés par PayPal, donc ça ne passe même pas par une banque. Il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance maladie, rien. On travaille au volume, corvéable à merci, sans aucun bénéfice social.
Et donc, il n'y a en fait aucun contrat de travail, aucune existence juridique pour ces travailleurs.
Absolument. Tout ça se fait sur une plateforme en ligne où chaque travailleur peut se signaler en disant « aujourd'hui, je voudrais travailler ». Et c'est une plateforme extrêmement bien conçue qui dispatche dans le monde entier des millions de tâches par jour à ces travailleurs qui, l'un depuis le bureau aux Philippines ou depuis sa chambre dans un bidonville, on a aussi ces cas-là, travaillent quelques minutes, quelques heures par jour pour gagner quelques centimes.
Justement, est-ce qu'ils peuvent vivre de ce travail ?
Le minimum salarial dans cette partie des Philippines est d'environ 5 à 6 dollars par jour. Certains gagnent moins en fonction de la demande quotidienne, certains gagnent un peu plus, mais on n'est jamais très loin du minimum, sachant que normalement, le minimum social, il inclut tout un tas de bénéfices sociaux, une retraite, une assurance santé, des choses qui, là, ne sont même pas prises en compte. Donc, on peut dire globalement que ces jeunes travaillent très en dessous des minimums sociaux.
Et qu'est-ce qui les motive à travailler dans ces conditions-là?
Le fait qu'il n'y a pas d'emploi, en fait, l'entreprise Scale AI, cette entreprise américaine, n'a pas choisi de venir à Manille, une grande métropole mondialisée où il y a beaucoup d'emplois, où la main-d'œuvre est plus qualifiée, aussi un peu plus chère. Elle a choisi d'aller, entre guillemets, s'enterrer dans une île des Philippines, bien loin de la capitale, dans une petite ville d'un million d'habitants, où il y a un marché de l'emploi qui est très serré. Les jeunes n'ont pas d'autre choix. En fait, c'est soit on a un petit boulot de construction, soit on est au chômage après l'université, soit on va travailler pour Scale AI. Tout ça, ils le font parce qu'il n'y a pas d'autre emploi.
Toutes ces données sont ensuite renvoyées vers les États-Unis, dans les bureaux de la Silicon Valley. Pour qui ils travaillent, ces informaticiens, via l'intermédiaire de la startup Scale AI?
Alors, les grands noms que vous connaissez, hein, Google, bien sûr, Apple. Apple, par exemple, si vous prenez votre téléphone Apple aujourd'hui, si vous en avez un, vous pouvez taper le mot voiture ou le mot neige ou le mot tomate. Et vous verrez que votre téléphone, il est capable d'aller vous trouver toutes les photos où il y a de la neige, où il y a une tomate, où il y a une voiture. Eh bien, tout ça, ça a été appris par ces Philippins. Mais il y a aussi des grands constructeurs automobiles, Lexus, Mitsubishi, beaucoup de constructeurs asiatiques. On a aussi OpenAI pour en fait défricher des millions et des millions de textes qui sont ensuite intégrés à son application ChatGPT, dont vous avez sûrement entendu parler ces derniers mois. Sans le travail de ces Philippins, ChatGPT débiterait des horreurs parce qu'il ne serait pas à faire la différence entre un propos sexuel, un propos raciste, un propos, entre guillemets, publiable. Et puis, il y a des sociétés européennes, en fait. Alors, évidemment, Rimotask ne diffuse pas le nom de ses clients. Ces noms de clients, je les ai obtenus par des cadres internes à l'entreprise aux Philippines qui ont accepté de me parler. Mais il y a vraiment des entreprises partout dans le monde.
Dans votre reportage, qu'on peut évidemment lire dans Le Soir, vous expliquez que les conditions de travail n'ont pas toujours été aussi mauvaises, qu'en fait, les rémunérations ont brutalement diminué assez récemment et que les tâches ont été délocalisées vers l'Afrique.
Oui, alors au début, quand cette plateforme est arrivée dans cette ville philippine qui s'appelle Cagayan de Oro, on était juste avant la pandémie de Covid, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre qu'il y avait une société américaine qui employait des jeunes informaticiens pour annoter des données. À l'époque, ça a eu un grand succès parce que c'était relativement bien payé. La plupart des jeunes que j'ai rencontrés à Cagayan de Oro ont tous entendu parler de Rimotask, ont tous travaillé pour cette entreprise à un moment ou à un autre. Et puis, à partir de l'année 2021-2022, les rémunérations ont commencé à s'effondrer. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont arrêté de travailler. Et aujourd'hui, sur Rimotask, il ne reste plus que les jeunes en grande difficulté, hein, qui n'ont pas d'autre choix. Même si les rémunérations ont été divisées par deux, il n'y a pas d'autre emploi, donc on reste. Le phénomène est tout simple, c'est que Rimotask a trouvé encore moins cher ailleurs. Donc, l'entreprise a commencé à ouvrir des bureaux non plus aux Philippines, mais au Nigeria, au Kenya, au Venezuela, certains parlent même de l'Angola. Des pays où la main-d'œuvre est pas chère, elle parle anglais ou espagnol, bien sûr, des langues communes. Et donc, ça fait des années qu'en fait, les employés, on ne peut pas parler d'employés parce qu'ils sont des freelances, mais c'est tout comme, hein, c'est du travail dissimulé, que ces Philippins perdent progressivement leur travail au bénéfice des Nigérians ou des Vénézuéliens. Donc, c'est vraiment le dumping social, la course au moins cher.
Pourquoi l'intelligence artificielle a-t-elle autant besoin de tous ces travailleurs pauvres?
Alors, c'est une image qui est très intéressante, qui est utilisée par le fondateur de cette entreprise Scale AI, qui dit que l'intelligence artificielle, elle est comme un enfant, c'est-à-dire qu'au début, elle a besoin que ses parents, les humains, lui désignent, lui expliquent le monde avant de pouvoir s'approprier elle-même toute cette connaissance et de pouvoir agir de façon autonome. Et donc aujourd'hui, on a encore besoin de la patte humaine pour apprendre à l'intelligence artificielle à conceptualiser le monde, le comprendre, l'assimiler.
Et pourtant, on s'attend à ce que l'intelligence artificielle booste la productivité, qu'elle dope l'économie. Où va toute cette richesse qui est créée?
Pour l'instant, cette richesse, elle reste vraiment concentrée dans les entreprises qui sont en train d'apprendre cette technologie. C'est-à-dire que là, on voit bien que la valeur ajoutée, elle est captée par Scale AI à San Francisco. C'est elle qui se fait la marge sur les contrats que lui assignent Google, Facebook, Apple. Les Philippins, eux, ils ne touchent que les miettes. Leur emploi est en train d'être délocalisé dans des pays dont la main-d'œuvre est encore moins chère. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de bénéfice économique, hein, à cette intelligence artificielle aux Philippines. Alors, je me suis demandé, mais est-ce que le tableau est vraiment si noir? Est-ce que l'IA, elle n'est pas en train aussi de créer des opportunités pour les Philippines? Donc, j'ai été voir les startups de la ville pour leur demander si elles utilisaient l'intelligence artificielle, si ça les aidait à lever de l'argent, à trouver des produits qui utilisent l'IA et qui pourraient leur permettre de se développer. Et pour l'instant, ils me disent qu'en fait, non, parce qu'il n'y a aucun étudiant de la ville qui est formée à ce type de discipline. L'IA n'est pas enseignée dans les universités de la région. Ce qui est intéressant de dire, c'est que cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle, elle a plein de promesses, mais que à ce stade, en fait, son développement reprend vraiment des recettes assez éculées de la mondialisation. On développe une nouvelle technologie, mais on va la faire produire, on va s'appuyer sur une main d'œuvre vraiment pas chère, très vulnérable à l'autre bout du monde. La technologie nouvelle, mais la recette est assez vieille et c'est un problème. Il faut vraiment qu'on apprenne à développer des nouvelles technologies sans aller exploiter les pays du Sud. Ce serait peut-être ça la vraie nouveauté.
Le 21 janvier 1924, mourait Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. 100 ans plus tard, que reste-t-il du révolutionnaire et théoricien politique russe, notamment en Belgique? Le PTB, héritier du Parti communiste, se réclame-t-il toujours d'un courant marxiste-léniniste? Pascal Martin, du Polydée, s'est penché sur la question. Pierre Fagnard l'a appelé pour en savoir plus.
Bonjour Pascal.
Bonjour Pierre.
On est donc 100 ans après la mort de Lénine. On peut se poser la question à quel point est-ce qu'il a encore une influence, notamment dans les formations politiques en Belgique. On pense évidemment au PTB.
Alors oui, il faut d'abord préciser que donc Lénine est mort il y a exactement 100 ans, le 21 janvier 1924 en l'occurrence. Il est mort d'un troisième AVC consécutif à des problèmes d'artère. En fait, il est mort assez jeune, il avait 53 ans et sur les 7 dernières années de sa vie, il a connu un destin hors du commun puisqu'il est le père de la Révolution d'octobre. Il a vécu la Première Guerre mondiale, la Révolution russe, la guerre civile et pour finir, il a été le fondateur de l'Union soviétique avec tout ce que ça va changer dans l'équilibre fondamental de la planète au plan politique et social, économique également. Alors, pourquoi s'intéresser à Lénine aujourd'hui? Eh bien, parce que il a eu une vaste postérité en quelque sorte, puisque de nombreux partis ont été créés sur le modèle du soviétisme du parti bolchevique avec une inspiration de type marxiste-léniniste. Donc, c'est-à-dire que Lénine avait lu Marx et en a donné sa propre interprétation, celle qui va révolutionner quelque part cette Russie. Ses propres théories ont inspiré de nombreux partis marxistes-léninistes de par le monde, notamment en Belgique avec le Parti communiste belge à un moment donné, et puis plus tard, en 1999, le PTB qui a été fondé par Ludo Martens. Ludo Martens qui, pendant presque une bonne vingtaine d'années, va faire en sorte que le parti reste soudé, rivé à ses fondamentaux marxistes-léninistes jusqu'au jour où, en 2008, le PTB va amorcer un tournant fondamental qui va en faire le PTB d'aujourd'hui.
C'est quoi l'idée à ce moment-là? C'est de se dire, le parti marxiste-léniniste tel qu'il a été créé, il a un petit peu fait son temps, il faut aujourd'hui vivre avec son époque et donc mettre à jour presque ses concepts politiques?
Alors c'est tout à fait ça, la vision de Lénine sur son temps ne vaut plus 80 ans ou 70 ans plus tard. Ce qu'il faut, c'est se réadapter. Il y a notamment une donne fondamentale, c'est que la classe ouvrière s'est rétrécie. En 2008, il y a déjà de nombreuses usines qui ont pris le cap de la Chine et du sud-est asiatique. Il y a de moins en moins d'ouvriers. Les réalités ont changé. Il y a le féminisme, il y a déjà l'écologie. Aujourd'hui, il y a le voile et il faut s'adapter à son époque si l'on veut aller chercher les lecteurs, puisque le but, c'est quand même toujours de prendre le pouvoir, mais puisque le PTB se dit démocratique, eh ben, il doit emprunter la voie électorale pour y arriver. Et donc, exit le léninisme, on reste marxiste, mais on évite maintenant au PTB de se dire léniniste, d'abord parce que c'est daté, comme je viens de le dire, donc ça ne peut plus servir de grille de lecture à notre époque, mais aussi parce qu'il faut bien dire que Lénine a une mauvaise réputation. Alors qu'on en a fait souvent l'archange de la Révolution, l'homme gentil qui aurait en fait compris l'ouvrier pour lui donner la liberté, on sait aujourd'hui, après des recherches historiques, qu'il a semé les graines de la terreur que mettra bien plus en pratique Staline après lui, Staline que l'on dit aujourd'hui responsable de 15 à 20 millions de morts.
Dans le cadre de cet article, vous avez interrogé des gens au PTB. Ils vous en disent quoi de cette inspiration? On a effectivement un petit peu gommé les références à Lénine. Après, ça reste une figure qu'il faut lire?
Alors, c'est très difficile. Je pense qu'il reste des éléments léninistes dans la manière dont le PTB fonctionne. Il y a ce fameux centralisme démocratique qui consiste à prendre un peu l'avis de tout le monde, à brasser large, à faire une enquête d'opinion parmi les adhérents pendant de longs mois, voire plus d'une année. Et puis, on rassemble tout ça et puis on prend une décision. Mais une fois qu'on a pris une décision, il n'est plus question de venir la contester. Et donc, il y a quand même là-dedans, je veux dire, ce qui a fait le propre du totalitarisme soviétique. Mais bon, il faut bien dire que beaucoup de partis, beaucoup d'entreprises fonctionnent aussi de cette manière. Donc, on se donne souvent des airs de démocratie interne et puis à un moment donné, les chefs doivent trancher et ils doivent appliquer les décisions qui ont été prises. Mais dans les autres partis et dans les entreprises, évidemment, on ne se réfère pas à un régime qui a envoyé des millions de personnes dans le goulag.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, Lénine n'est plus une référence, juste une source d'inspiration avec des gros guillemets pour le PTB.
Voilà, c'est ainsi qu'il le voit, c'est une source d'inspiration. J'ai rencontré donc David Pestiot, qui est le directeur politique du PTB, qui me dit que les cadres ne lisent plus Lénine de A à Z, comme c'était le cas autrefois. Il a écrit, je crois, une quarantaine de livres, il fallait les connaître par cœur. Il y avait un argumentaire léniniste donc, qui correspondait à tous les problèmes de la société. On vous posait une question, vous répondiez par Lénine. On n'en est plus là. La réflexion a ses fondamentaux. Il faut connaître Che Guevara, il faut connaître Lénine, il faut connaître Mao, il faut connaître Lumumba. Mais au bout du compte, le but, c'est encore de pouvoir répondre, me disent-ils, aux problèmes de la classe travailleuse, c'est différent de la classe ouvrière, pour pouvoir lui apporter des solutions qui sont des solutions concrètes du temps présent.
Merci beaucoup, Pascal.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous. À demain.